Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons, vous l'avez compris, continuer sur les vallées. Et je vous le rappelle que dans votre vie, vous passez obligatoirement par différentes vallées, que vous le réalisiez ou pas d'ailleurs.
Et
chaque vallée représente des leçons obligatoires que nous devons apprendre dans notre vie. Si vous voulez aller loin avec Dieu, vous allez passer par les différentes vallées. Et dans ces vallées, il y a deux opportunités. Soit celle de réussir de passer dans la vallée d'après, ou soit d'échouer et de rester dans la vallée toute notre vie. Dans chaque vallée, il y a une rencontre avec Dieu qui nous attend. Mais malheureusement, très souvent, les chrétiens ne comprennent pas cela. Et ils restent collés ou plombés à leur vallée. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont des passages obligatoires. Nous avons vu qu'il y a des vallées du désert. Mais il y a aussi des vallées du pays promis. Et rappelez-vous, les Israélites sont d'abord passés au travers du désert. Avant de pouvoir goûter au pays promis. Et ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Tu traverses obligatoirement le désert et il y a des vallées où Dieu attend ou t'attend pour te faire grandir, pour te purger, te nettoyer de certaines choses, pour te transformer, pour te donner des leçons absolument extraordinaires qui te permettront vraiment d'aller de l'avant avec lui. Nous allons voir une de ces vallées aujourd'hui. Et je vous rappelle d'abord qu'il y a la vallée, dans les vallées du désert, nous en avons vu quatre. La première, nous avons vu, c'est la fameuse vallée d'Akor, qui veut dire affliction, tourment. C'était l'histoire de Josué, chapitre 7. Et on a vu que ça, c'est la vallée de nos erreurs. La vallée où nous devons détruire les choses qui déplaisent à Dieu. C'est là où aussi nous passons du temps à manger les fruits pourris des erreurs que nous avons faites dans le passé avant notre conversion. C'est dans cette vallée où nous devons en finir avec le péché d'une manière générale.
Oui.
Où il doit y avoir du nettoyage
dans nos vies.
La deuxième vallée, nous avons vu, c'est la vallée des souffrances, la vallée de Baca. Et on a vu que nous pouvons souffrir à cause de deux choses différentes. La première, c'est à cause de notre propre stupidité, parce qu'on fait des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu et on dit que c'est les choses de Dieu, parce qu'on ne comprend rien au royaume de Dieu et on souffre inutilement pour des choses dans lesquelles on s'est embarqué parce qu'on n'a rien compris, on essaye de faire des choses par nous-mêmes et on se trompe. la deuxième raison pour laquelle nous souffrons, et ça c'est une souffrance scripturaire, c'est quand tes convictions sont éprouvées. Où il y a des gens qui viennent et qui essayent de détruire tes convictions. Tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur. Tu t'es converti. Tu as nettoyé ta vie du péché. Mais là, tu te retrouves face à face avec tes convictions. Et parfois, c'est difficile. Parce que tu as dit à tout le monde que tu connaissais le Seigneur. Et les gens ont dit, ok, on va bien voir ça. Et là, tu dois souffrir parfois pour ta foi.
Pour
le témoignage que tu as rendu. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans cette vallée. C'est là où Dieu commence à nous préparer. Et il nous apprend une chose, c'est à dépendre de lui. Et on apprend beaucoup de choses dans cette vallée de souffrance. Nous l'avons vu ensemble, je fais juste un petit résumé ici. Ensuite, nous avons vu la vallée des géants. La fameuse vallée des Réphaïm. Et en fait, dans cette vallée, c'est là où nous avons à faire face par rapport à ce que Dieu nous a montré déjà, aux choses qui nous empêchent, ce qu'on appelle souvent leadership, les couvercles, les choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Et qui parfois sont des choses de notre passé, le manque d'éducation, le manque de finances, le manque d'expérience. Nous avons à faire face à nous-mêmes. Et puis nous sommes aussi devant des grands défis.
Et
ces grands défis sont devant nous, parce que le Seigneur nous a montré un certain nombre de choses. Et ce n'est pas évident parce qu'on se retrouve vraiment en disant voilà, je sais ce que le Seigneur veut, je sais là où il faut que j'aille. Et pour moi, ça me paraît encore une montagne. Ensuite, nous avons vu la vallée de l'ombre de la mort. Et parfois, même jusqu'à le côté physique, ça peut arriver.
Vous
savez, quand vous avez une grande destinée, le destructeur essaye d'en finir avec nous. Et parfois, il y a des choses qui peuvent nous tourner autour. Nous en avons très largement parlé. L'autre partie de cette vallée de l'ombre de la mort, qui est indispensable pour toi, c'est que tu apprennes à mourir à toi-même, à tes désirs, à vouloir faire les plans de Dieu par, avec tes propres façons de faire. Je vous ai montré que beaucoup de gens ne sortent pas de cette vallée à cause de ça. Ils ont des destinées formidables, mais ils font comme Moïse. Ils tuent l'Égyptien et se retrouvent 40 ans dans le désert. Nous avons vu, et Dieu avait, a dû, 40 ans plus tard, secouer Moïse pour le faire avancer à nouveau. Et là, nous sommes arrivés dans les vallées de notre destinée. Il y a la vallée de Beraka. Et qui veut dire la vallée de bénédiction. Et là, on commence à entrer dans le pays promis. C'est là où vraiment tu sais comment la foi fonctionne. Tu n'es plus impressionné de toutes sortes de choses qui pouvaient t'impressionner avant. Mais tu as appris à dominer tes circonstances. Tu as vraiment compris comment la foi fonctionnait. Et tu sais amener la puissance de Dieu et la vie de Dieu d'une façon tangible dans tes situations. Tu commences vraiment à savoir dominer dans tes situations. À voir la bénédiction de Dieu couler, couler, couler dans ta vie. Ça, c'est une belle période et c'est une belle vallée. Mais il y a un certain nombre de personnes qui restent dans cette vallée parce qu'on les a mal enseignées. On leur a enseigné comment recevoir de Dieu.
et
on leur a expliqué comment être béni par Dieu.
Et
rappelez-vous d'une chose, je tiens encore le spécifique, ne cherche pas la bénédiction, sinon ça risque de tourner en malédiction dans ta vie. Cherche toujours celui qui est la source de toute chose. Et sache une chose, si tu es béni, tu ne dois pas t'arrêter là. Parce que Dieu a dit à
Abraham
que je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Donc il faut que tu apprennes bien sûr à être béni, parce que quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas être une source de bénédiction.
Et
il y a trop de gens aujourd'hui à qui on prêche la bénédiction, point. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si les gens prêchent la bénédiction, que ce soit la prospérité financière, que ce soit la guérison, que ce soit différentes choses qu'on peut voir dans la bénédiction de Dieu, juste pour s'en arrêter là, c'est-à-dire je sais comment recevoir de Dieu, je sais vraiment comment Dieu fonctionne, ma vie est en ordre avec lui,
je ne
dois pas t'arrêter là. Il y a beaucoup plus pour toi. Il y a beaucoup plus pour toi. Il y a une vallée très particulière dans laquelle tu dois apprendre à rentrer. Ça s'appelle la vallée des visions. Je rajouterai la vallée des visions accomplies. Ce matin, nous allons parler de l'accomplissement, de l'épanouissement du chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous parlez avec eux, bon, quand ils ont la bonne parole de Dieu, ils sont dans une bonne église, ils vous diront vraiment, le Seigneur m'a béni. Et j'entends cela, et c'est bien. Moi, j'aime bien voir vos visages où vous avez le sourire. J'aime pas voir des visages, vous savez, qui sont comme ça, où les gens ont l'air malheureux. Et des fois, quand vous rentrez dans des églises, vous voyez que les gens, par exemple, souffrent. On voit la souffrance sur le visage.
Et
évidemment, si vous voyez la souffrance chez les brebis, vous voyez la souffrance sur le pasteur. C'est normal parce qu'il communique sa souffrance. Mais moi, ce que j'aime voir, c'est des gens qui sont heureux, c'est bien.
Et
des gens qui me disent vraiment, le Seigneur m'a béni, gloire à Dieu.
Mais
il y a beaucoup plus pour toi.
Dis,
il y a beaucoup plus pour moi.
Il y a beaucoup plus pour moi.
Beaucoup plus pour moi.
Beaucoup plus pour
il y a l'abondance, il y a l'épanouissement.
Il y a l'abondance, il y a l'épanouissement.
Ça doit couler partout.
Amen.
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 Voyons-nous ensemble dans Ésaïe chapitre
22.
Ésaïe chapitre
22.
Si la seule chose que tu veux voir, c'est la bénédiction, bon, Dieu va te la donner. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à te refroidir. La plus belle des choses que tu pourras vivre dans ta vie. La plus belle des choses que tu pourras vivre dans ta vie. C'est que Dieu t'ait parlé de façon spécifique. Et que ça s'accomplisse dans ta vie. L'accomplissement des visions que tu as reçues du Seigneur. Chaque être humain, Dieu l'a créé avec un but. Dieu l'a créé avec une destinée particulière. Sur chacun d'entre nous, frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier que Dieu a prévu d'avance depuis l'éternité. Et il te l'a révélé quand tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des choses que Dieu te révèle quand tu cherches sa face, quand tu es vraiment quelqu'un qui t'ouvre. Tu t'ouvres complètement au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, montre-moi ce que tu as dans ma vie. Dieu va te parler. Dieu va mettre des choses dans ta vie. Il va te donner des rêves. Il va te donner des visions. Mais une chose est sûre. Tu peux t'arrêter dans la vallée de la bénédiction et ne jamais entrer dans la vallée des visions qui s'accomplissent. Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ça, c'était pour Israël parce qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Mais on va utiliser ce texte, cette expression vallée des visions pour illustrer ce que je veux vous illustrer. Dieu a une vallée des visions accomplie pour ta vie. Un exemple que l'on peut voir, c'est évidemment l'exemple de Joseph. Et nous allons le voir. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on lise trois textes pour vous montrer la différence entre le fait d'être béni par Dieu et le fait de vivre dans une abondance divine. Il y a plusieurs textes qui nous en parlent dans le Nouveau Testament. On va lire ces textes déjà rien que pour éveiller en vous quelque chose. C'est vraiment une dimension très différente. Je vous dis, il est bien et il est important d'apprendre à savoir comment la foi fonctionne. Comment trouver des solutions divines aux différents problèmes humains que nous avons. Ça, c'est une période extrêmement importante de notre vie. C'est une vallée. Ça s'appelle la vallée de la bénédiction que nous avons vu avant. De savoir comment Dieu peut répondre à différentes choses. Dans ta vie, tu viens d'une famille où tu étais quasiment complètement détruit. Et des années plus tard, tu as passé les différentes vallées. Tu es arrivé dans la vallée de la bénédiction. Et pour toi, c'est un rêve. Parce que tu reviens de tellement loin que c'est un rêve. Dieu a restauré ta vie et sa bénédiction coule dans ta vie. C'est bien. Tu as peut-être trouvé la bonne personne, tu as commencé à fonder une famille, gloire à Dieu. Tu étais quelqu'un peut-être sans éducation ou tu avais peu d'espoir de trouver vraiment quelque chose de bien au niveau financier et ça marche. Tu as des bons amis chrétiens, gloire à Dieu. Tu as toutes sortes de bonnes choses qui se passent dans ta vie parce que tu as la foi, tu sais comment prier. C'est bien. Mais il y a une autre dimension. C'est la vallée des visions accomplies. On va regarder d'abord plusieurs textes. Je veux déjà susciter quelque chose chez vous. Regardons dans Luc chapitre 6 verset 38. Luc 6, 38. Ça nous parle de donner, mais on va s'intéresser à quelque chose à propos de ce que Jésus dit. Vous voyez, il est dit, donnez, vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui quoi ? Qui déborde. Vous voyez, vous pouvez recevoir les choses de Dieu dans une certaine mesure. Mais aussi vous pouvez en recevoir jusqu'à temps que ça déborde. Là, ça devient une abondance. Ce n'est plus seulement une provision. Vous comprenez la différence entre la provision et l'abondance? La provision va répondre à un besoin en particulier. L'abondance, c'est que t'en as tellement que tu sais quasiment plus quoi en faire. C'est une autre dimension. Tu peux être pourvu parce que tu as commencé à vraiment mettre les lois du royaume de Dieu en action. Tout peut bien se passer dans ta vie, tu n'as pas de problème majeur. Mais est-ce que ça déborde? Est-ce que ça arrive de toutes parts et tu sais quasiment t'en as plein les bras? Tu es dans une abondance. C'est une autre dimension que la provision. Mais la provision est une étape. La provision, c'est la vallée de la bénédiction. Mais la vallée des visions accomplies, c'est, ça déborde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Regardons ensemble psaume 23. C'est la même idée ici. Psaume 23. Un psaume qu'on connaît tous très bien. Regardez bien versets 5 et versets 6. Oui, il y a un aspect de la bénédiction. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus. Dieu dit, C'est David qui parle par le Saint-Esprit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Guntegurira meza mu maso y'abansi banje wasize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye.
Et ma coupe déborde.
Igikombe canje kirasesekaye.
Voyez, c'est très différent. C'est une dimension dans laquelle tu vis dans une surabondance. À tous les points de vue. À tous les points de vue. Je parle spirituel, relationnel, financier, dans ta santé, etc., etc. Regarde le verset 6. Il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, quand on est béni, on se réjouit de la bénédiction. Vous êtes d'accord? Par exemple, tu as une promotion. T'es super content. Tu loues le Seigneur, tu témoignes en disant vraiment j'avais prié pour ça, Dieu m'a béni. C'est bien. Ça va durer un certain temps où tu vas te réjouir par rapport à ça. Mais là c'est pas le bonheur et la grâce qui t'accompagnent tous les jours de ta vie. C'est quelque chose qui t'a rendu heureux parce que tu as vu la main de Dieu et tu as été béni d'une façon ponctuelle. C'est bien, mais il y a plus. Ah, dites, il y a plus. J'aimerais que vous commenciez à saisir quelque chose. C'est quelque chose que le Seigneur commence à me montrer petit à petit. J'en ai pas encore une grande révélation. C'est quelque chose qui est important que j'aimerais qu'on découvre ensemble. Parce que ça fait partie des choses de la vie que l'on voit chez des gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Et je crois que souvent, malheureusement, quand les choses vont bien dans nos vies, nous avons tendance à ralentir. Parce que tout va bien. Oh pasteur, tout va très bien dans ma vie. Oui pasteur, je suis vraiment content. Le Seigneur m'a béni. Oui, c'est bien mon frère, ma soeur. Mais
il
faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille dans la coupe qui déborde. Dieu nous donne la même image ici et je dirais les mêmes choses dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. On parle de finances ici, oui, mais c'est un principe général. Versets 6 à 8. J'aimerais bien que vous méditiez sur ce verbe combler, être comblé. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8 maintenant, regardez bien. Et Dieu peut quoi ? Peut vous combler. Il peut vous combler. Si tu es comblé, c'est pas pourvu. Pourvu est une dimension, être comblé, c'est une autre dimension.
Vous
voyez donc, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en quoi ? En abondance. Pour toute bonne œuvre. Des ressources en abondance. Des ressources spirituelles en abondance. Une histoire de votre vie. Où l'abondance coule. Et quand des gens viennent, ils viennent puiser à votre source. Parce qu'ils ont vu ce que vous êtes capable de faire dans le Seigneur. Ça, c'est l'abondance. Il y a quelque chose, frères et sœurs, une dimension qu'on n'a pas encore bien découverte. Je crois qu'il y a quelque chose de très très largement supplémentaire que Dieu veut nous faire découvrir. Certains vous allez me dire, oui, mais tu sais, moi pasteur, pour l'instant je suis encore dans la vallée des souffrances. Que le Seigneur te bénisse mon frère, continue. Mais au moins ait une perspective quelque part. La Bible nous dit que sans vision, le peuple meurt, le peuple est sans frein. Il faut savoir où tu vas. Quelle est la perspective que tu vois devant toi? Parce que c'est ça qui va créer un moteur, tes motivations. Tellement de chrétiens n'ont pas de motivation dans leur vie spirituelle. Si ce n'est de dire, voilà, je souffre, je vais prier, je veux qu'on prie pour moi parce que je veux sortir de ces problèmes-là. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu veut faire dans ta vie, mon frère, ma
soeur.
Il veut te combler.
Il
veut que tu sois dans une abondance
de
ressources extraordinaires. Que quand quelqu'un vient vers toi, qu'il puisse trouver de la sagesse et de l'intelligence divine d'une dimension que tu vis et que tu peux transmettre. Non pas seulement un témoignage.
Vous
voyez, beaucoup de gens ont des témoignages. Gloire à Dieu pour les témoignages. Tu vas encourager quelqu'un à un moment donné.
Mais
beaucoup plus que ça. Il y a une vallée des visions accomplies
où
tu as dépassé le témoignage, où ta vie représente un exemple, où tu inspires les autres, où d'autres personnes se disent, mais comment il en est arrivé là? Comment elle a fait pour s'en sortir comme ça? Je l'ai connu il y a 20 ans, 30 ans. C'était quelqu'un qui était foutu. Quelqu'un dont la vie ne valait rien. Et aujourd'hui, après toutes ces années, quand je vois où cette personne se situe, je n'arrive même pas à en croire mes yeux. Ça, c'est autre chose.
Ce
n'est pas seulement dire, tu vois, je vais t'expliquer comment Dieu m'a béni. Ça, c'est bien. Mais
ce
n'est pas une finalité. On va prendre l'exemple de Joseph. Moi, j'aime vraiment Joseph. Je trouve qu'il y a tellement, tellement, tellement de leçons pour nous dans la vie. Ce jeune homme qui, après, est devenu vraiment un puissant leader, c'est quelqu'un qui a su arriver dans la vallée des visions accomplies. Vous vous rappelez que Joseph était quelqu'un d'une très bonne famille, mais qui avait une vision divine. Dieu lui avait montré que ça serait un grand leader. Mais parce que c'était un gamin orgueilleux, il avait 17 ans, et que c'était le petit préféré de papa, donc Jacob qui avait créé vraiment des jalousies terribles dans sa famille, qui avait mis du gaz dans sa famille, entre guillemets, et Joseph jouait, entre guillemets, avec des allumettes, vous comprenez ce que ça veut dire, quand il a raconté ses songes et ses visions, il a craqué les allumettes et il a rapproché ça du gaz qu'il y avait dans la famille, de toute l'ambiance familiale. Et évidemment, quand il y a du gaz dans l'air et que vous allumez une allumette, qu'est-ce qui se passe? Boum! Ça lui a pété à la figure. Nous savons qu'il a été vendu à Potiphar, qui l'a amené en Égypte. Et ça a été, entre guillemets, comme nous disons souvent en français, la descente aux enfers. Et là, Joseph a été dans les différentes vallées. Ça, c'est sûr qu'il a été dans toutes les vallées. La vallée des souffrances, la vallée des erreurs, toutes ces vallées-là, il les connaît très bien. Il est passé par toutes les vallées difficiles. Mais Dieu a utilisé tout cela pour faire de Joseph un grand leader. Et quand nous lisons son histoire,
vous
la trouverez à partir de Genèse chapitre 37, on voit que Joseph va utiliser dans les moments de souffrance, il va être éprouvé dans ses convictions. À Joseph, vous retrouverez quasiment toutes les vallées dont on a parlé. Il s'est retrouvé dans la vallée des géants, parce qu'il s'est retrouvé en prison à un moment, alors que ce n'était pas de sa faute. Il a interprété des rêves dans cette prison. Il y avait deux serviteurs de Pharaon.
Et
il y en a un où il lui a dit, tu vois, toi tu vas mourir selon ton rêve. Et l'autre, il lui a dit, tu seras restauré, ça s'est produit. Et quand l'autre est sorti de prison, juste avant, Joseph lui a dit, surtout ne m'oublie pas, parle à Pharaon en ma faveur, je suis en prison mais c'est pas de ma faute. Et Joseph est resté encore 2 ans en prison. Puis nous savons ce qui va se passer. À un moment, Pharaon va faire un rêve et il va voir des vaches maigres et des vaches grasses, des épis gras et des épis maigres. Il envoie 7 à chaque fois. Et évidemment, le serviteur du roi qui avait été restauré a dit au roi, tu vois, moi je connais un jeune garçon hébreu qui peut interpréter ça. Et là, miraculeusement, Joseph va sortir de la prison, interpréter les rêves. Et il va sortir de cette vallée des géants. Et nous connaissons cette histoire. Ce qui va se passer, c'est que le pharaon va le nommer deuxième d'Égypte, parce que Joseph va interpréter ses rêves. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est l'autre partie. Comment en fait Joseph va voir les rêves qu'il a eus 13 ans plus tôt s'accomplir? Et ça, c'est être dans la vallée des visions accomplies. Lorsque Pharaon va faire sortir Joseph de la prison, par un miracle de Dieu, ce qui va se produire, c'est que Joseph va se retrouver deuxième d'Égypte. Donc il va être béni, il va se retrouver, il va se marier, tout va bien se passer. Donc il va sortir de son humiliation. Quand vous êtes dans la vallée de la bénédiction, vous sortez de votre humiliation. Mais vos rêves ne sont pas accomplis. Vous n'êtes pas dans l'abondance divine. Et quand Joseph va travailler, il va œuvrer très durement. Parce que Joseph était un homme qui avait compris une chose. Il y avait vraiment quelque chose que très peu de chrétiens comprennent. C'est relier l'aspect spirituel avec le monde naturel. La connexion du monde spirituel avec ce que tu réalises. Ça, c'est un problème que je vois chez la majorité des chrétiens. Ils reçoivent des choses du Seigneur. Ils reçoivent des rêves et des visions. Des choses qui sont absolument fabuleuses. Mais ils n'arrivent pas à relier le monde spirituel, c'est-à-dire ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et à l'amener à la réalité. Et ça, c'est un grave problème que je vois. La plupart des chrétiens que je rencontre qui me parlent de ça, ils disent toujours, de toute façon, comme Dieu m'a dit, alors ça va se faire. Sous-entendu, moi, je ne dois pas me positionner. Et ça, c'est une grave erreur. Oui, tu dois œuvrer pour que la vision s'accomplisse. Joseph avait donné des principes à Pharaon en lui disant
«
Il faut que tu trouves quelqu'un qui, pendant les années où il va y avoir la prospérité, les sept années de prospérité d'Égypte, tu mettes de côté du blé. Comme ça, quand il y aura les sept années de famine, alors on pourra utiliser ce blé. » Et Joseph a été nommé par le Pharaon. Il va réussir sa mission. Et quand il est au sommet, au niveau de la bénédiction, il va se passer quelque chose. Sa famille va venir. Il va faire exprès de ne pas se faire reconnaître par ses frères. Et au bout d'un moment, effectivement, il se fait reconnaître par ses frères. Au chapitre 45, lorsqu'il se fait reconnaître par ses frères, il va se passer un événement particulier. Alors, au verset 8, au chapitre 45, on va lire jusqu'au verset 14, on va lire du verset 8 au verset 15, pardon, 8 à 15. Il se fait reconnaître par ses frères et il dit la chose suivante: ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9: hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Verset 10: tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi et tes fils, les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Verset 11, là je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Verset 12, vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle.
None rero si mwebwe mwandungitse ino ni Imana kandi yampinduye nka se wa Farao n'umuzezwa rugo wiwe wa byose no kuba umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Nimwihute muduge kwa data muze mushike mumubarira muto umwana wawe Yosefu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba w'igihugu yadutumye ngo Imana yamugize umugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Mutimanuka uze iyari mutebe muti kandi uzoshika uba mu gihugu cy'Igosheni ube hafi yiwe mwe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikuku yawe n'amasho yawe n'ibyo ufise byose kandi muri mutazogutungirayo kuko hasigaye imyaka 5 y'ikigoyi woye kuzohava ufutana mwe n'inzu yawe n'abo ufise bose kandi muravyibonera n'amaso yanyu na mwene mama Benyamini aravyibonera yuko ari jewe ubwanje vyikuriye mu kanwa kandi muze mubarire data icubahiro canje cose mfise muri Egiputa n'ivyo mwiboneye byose kandi muze munyarukane data kumushikana ino. Yosefu araheza gwa mwizosi Benyamini mwene nyina ararira Benyamini nawe ararira kwizosi rya Yosefu.
Là c'est vraiment un contact qu'il a à nouveau avec sa famille.
Aha rero urabona ko asubiye guhura n'umuryango wiwe.
Et il va se produire quelque chose. Joseph va faire venir sa famille en Égypte.
Yosefu rero cyafata umuryango we barawuzana muri Egiputa.
Il était déjà deuxième d'Égypte.
Yarasanzwe ari wa kabiri muri Egiputa.
Et lorsque sa famille va venir, Pharaon va être au courant.
Umuryango rero wiwe uje Pharaon arabimenya.
Regardez au chapitre 47.
Raba ku murongo wa 47.
L'abondance, la surabondance que Joseph va vivre.
Raba umusesekara.
Verset 5 et verset 6.
Umurongo wa 5 n'uwa 6.
Verset 5 et 6, 47, 5 et 6.
«
Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. » Regardez le verset 6. « Le pays d'Égypte est devant toi. » Regardez bien ce qu'il va lui dire. « Établis ton père et tes frères dans quoi ? La meilleure partie du pays. » Qu'ils habitent dans le pays de Goshen et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Le pharaon va donner une partie du territoire d'Égypte. Et pas n'importe laquelle. Il ne va pas donner à Joseph un petit coin où il peut venir avec sa famille. En disant, bon écoutez, ils étaient environ 70, c'est ce que la Bible nous dit dans les Actes d'ailleurs. Toute la famille de Jacob, avec les serviteurs, les servantes, ils ont déménagé, ils étaient environ
70.
Pharaon aurait pu dire, écoutez, bon, installez-vous dans un quartier de la ville. Et puis on vous donnera à manger tout juste. Non.
Oh, yeah.
Pharaon dit à Joseph.
Pharaon
il lui dit,
il
y a un territoire pour toi que je donne à ta famille. Le meilleur. Et c'est exactement ce qui va se produire. Ce territoire, ce pays de Goshen, comme on l'appelle souvent, cet immense territoire que Pharaon donne à la famille de Joseph va être un incubateur sécuritaire pour que la famille de Joseph, donc la famille d'Abraham, les descendants d'Abraham puissent se développer. Ils vont passer d'une famille de 70 personnes à peu près à un peuple de 2 millions de personnes. C'est là où vous les retrouverez au début de l'Exode. Mais on voit que Joseph a vu sa vision s'accomplir. Il est devenu un leader et lui-même a amené toute sa famille. Regardez comment sa famille vivait. Regardez juste pour vous dire à peu près comment la condition de Jacob à cette époque-là. La difficulté dans laquelle il était. Regardons du verset 7 au verset 9. On va lire ensemble. Verset 7. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Verset 8, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Regardez bien ce que Jacob, descendant d'Abraham, va dire. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et quoi? Mauvais, imaginez-vous. C'est ce que Jacob, descendant d'Abraham, va dire.
Yakobo urubyaro rwa Aburahamu umva ico yishuye ngo yishura Farao ati imyaka y'ukuyerera kwanje kwisi ni 130 iyo myaka mbayeho ibaye mike kandi mibi.
Jacob fait un bilan sur sa vie.
Yakobo agira icegeranyo c'ubuzima bwiwe.
Il va dire mes jours franchement ont été mauvais.
Avuga ati mbayeho iminsi mike kandi mibi.
Jacob a toute une histoire avec Dieu. Rappelez-vous, il a volé la bénédiction à son frère. Après, il a fait une expérience vraiment avec Dieu de révélation. Il s'est complètement corrigé. Mais franchement, ça n'a pas été quelqu'un qui était un bon leader, Jacob. Et il n'a pas su non plus travailler avec la bénédiction de Dieu et arriver dans la vallée des visions. C'est un de ses fils, Joseph, qui va le tirer de sa misère. Parce que la vie de Jacob et de sa famille était misérable dans le pays de Canaan. Ils étaient dans la famine. Ils ne dominaient pas, ils étaient plutôt dominés. Et on voit vraiment la différence. Pourtant, Jacob avait été l'héritier des promesses de Dieu, des promesses d'Abraham. Mais il n'a pas su faire travailler ses promesses en sa faveur. Et il va dire, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ça veut dire, en comparaison avec Abraham et Isaac, si Abraham avait 18 sur 20 et Isaac peut-être avait 15 sur 20, moi j'ai 8.
Ou 7. Ou 6.
Ça veut dire qu'il avoue, j'ai fait beaucoup moins bien qu'eux. Mais regardez Joseph. Joseph qui a eu pratiquement sa destinée de foutue en l'air. Dieu va lui donner Pharaon. Et Pharaon va mettre Joseph dans une surabondance de terre. Si vous lisez la suite de cette histoire, verset 13, comment Joseph était ultra doué. Rappelez-vous, ça a commencé par une vision divine. Et ça, c'était pas une vision accomplie. Ça a commencé par une vision divine qui a failli être gâchée à cause du caractère. Et ça s'est terminé en gloire surabondante. Il est dit qu'il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Verset suivant. Joseph recueillit tout l'argent. Regardez bien. Il était trop fort, Joseph. Il a réussi à recueillir tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Tout l'argent d'un pays. Imaginez-vous.
Nuko mu gihugu cyose ntihaba hakiboneka ibyo kurya kuko ikigoyi cyari cinshi cyane bituma abo mu gihugu cya Egiputa n'abo mu gihugu cy'i Kanani bagwa isari kubw'inzara. Yosefu akoranya amahera yose yari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye gusumisha ayajana kwa Farao.
Cet homme était dans une surabondance dans sa mentalité.
Uyu mugabo mu mutwe we mu byumviro byiwe yari mu musesekara.
Et c'est ressorti rien que par les stratégies qu'il avait.
Uravye ingene ya imikenyuro yiwe urabona yuko yarabize byukuri.
Quand vous me parlez que Dieu vous a dit quelque chose.
Iyo mbwira ko Imana yakubwiye ikintu.
Est-ce que vous avez l'intelligence divine pour l'accomplir?
Bega umva ufise ubumenyi bw'Imana bwo kugishitsa.
Est-ce que vous allez passer par toutes les vallées par lesquels vous devez passer? Si vous lisez la suite, il a récupéré toutes les terres d'Égypte. Beaucoup de gens veulent brûler les étapes des vallées et ils se trompent. Tu as une belle vision. Et ça, c'est très important. Mais ta vision n'arrivera pas dans la vallée des visions accomplies tant que tu n'auras pas compris qu'il va y avoir des choses qui doivent changer en toi, tant que tu ne seras pas passé par les vallées de la souffrance, toutes les vallées que nous avons vues. Pourquoi? Parce que quand tu as une vision, tu es ignorant au départ sur comment ça marche. Et tu as besoin d'être brisé pour être un instrument qui va pouvoir être utile dans les mains de Dieu. Pour ça, il va falloir que tu passes dans des difficultés, dans des temps où ton caractère va être éprouvé. Et selon la façon dont tu vas répondre à cela, la façon dont tu vas laisser Dieu travailler en toi, alors tu vas apprendre cette dépendance avec Dieu et tu vas grandir dans le Seigneur. C'est seulement alors que petit à petit tu vas passer d'une vallée à une autre. Trop de gens veulent aller dans la vallée des visions accomplies sans être passés par les autres vallées. Trop de gens veulent des raccourcis.
Et
malheureusement, quand ils prennent ces raccourcis, comme ils n'ont pas été brisés, vidés d'eux-mêmes, comme le caractère de Christ n'a pas été infusé en eux, ils essayent d'accomplir leur vision. Et finalement, ils font un Ismaël. Joseph était quelqu'un qui est passé par des temps de brisement, qui est passé par des temps où il a appris à dépendre du Seigneur seulement. Il a appris à reconnaître les opportunités divines. Il a pris des coups. Il a pris des coups. Certains coups, c'était de sa faute. D'autres coups, ce n'était pas de sa faute. Mais il a progressé. Lorsque Dieu a commencé à le bénir, il ne s'en est pas arrêté là. Il est rentré dans cette vallée des visions accomplies. Quand sa famille s'est présentée, qu'il a pu l'installer dans le plus bel endroit d'Égypte. Joseph était un homme mûr. Un homme accompli, un homme comblé, un homme dans une surabondance. Et c'est pour ça qu'il a pu être une source de bénédiction pour toute sa famille, pour tous ses proches. Alors qu'il aurait pu leur dire, vous voyez ce que vous m'avez fait. Moi aujourd'hui je suis le deuxième d'Égypte. Je peux vous écraser la tête et vous mettre en prison jusqu'au dernier jour de votre vie. On dit en français, la vengeance est un plat qui se mange froid. Je
ne
sais pas comment tu as traduit ça, mais il y a un proverbe certainement. Mais Joseph aurait pu faire ça. Et souvent, c'est ce que ça produit chez les gens. C'est comme ça qu'ils réagissent lorsqu'ils essayent de monter par eux-mêmes et d'accomplir leur vision. Quand ils pensent être à une certaine hauteur, ils se comportent extrêmement mal et ils gâchent leur destinée. Joseph est rentré dans cette vallée des visions accomplies, c'est-à-dire que ce qu'il avait vu quand il avait 17 ans, il y est entré. C'est la plus belle des choses qui peuvent vous arriver, frères. C'est d'arriver à voir ce que Dieu vous a dit, être accompli devant vos yeux, que la vision que vous avez reçue du Seigneur puisse devenir une réalité. Ne vous arrêtez pas à la bénédiction, mais rentrez dans cette vallée où Dieu va commencer à faire des choses que vous avez vues prophétiquement des années avant, des choses qui vous paraissaient impossibles et que vous imaginez d'une certaine façon, et c'était tellement faux la façon dont vous vous imaginiez les choses, des choses qui vont s'accomplir où vous êtes quasiment spectateur, tellement le royaume de Dieu et l'influence du royaume de Dieu est sur vous. C'est comme ça que vous serez comblé. Il n'y a pas d'autre secret pour être comblé par Dieu. Mais ne vous arrêtez pas à être béni. Continuez à chercher Dieu. Continuez à progresser. Jusqu'à temps que ce que le Seigneur vous a clairement dit puisse devenir une réalité pour vous. Sinon vous louperez votre destinée. Nous allons nous lever et nous allons prier. Levez vos mains vers le Seigneur, je vais prier pour vous et nous allons clôturer. Père, je prie pour ce peuple ce matin encore. Je prie pour qu'il avance avec la vision que tu lui as donnée, Seigneur. Père, je prie pour que ce peuple ne soit pas un peuple qui s'arrête là où il est béni. Mais je prie, Père Céleste, pour que ce peuple découvre la surabondance de ta grâce. Fais-nous découvrir cette dimension, Seigneur. Oh, nous en avons tellement besoin. Nous voulons être comblés. Complètement comblés, Seigneur. Comblés par toi. Nous aimons être bénis, Seigneur. Seigneur, nous voulons être une source de bénédiction. Nous ne voulons pas, Seigneur, simplement être béni. Pour dire Dieu m'a béni. Mais nous voulons être une source. Je prie pour chaque frère et sœur ici, pour qu'ils ne brûlent pas les étapes, mais qu'ils marchent étape après étape. Que chaque vallée, Seigneur, il puisse y aller et il puisse vraiment sortir, Seigneur, victorieux. Je prie, mon Père, pour que vraiment tu aides chaque frère et sœur ici, afin que les visions que tu as mis, les rêves que tu as mis, qui évidemment Seigneur sont des prophéties pour ce pays, que cela puisse s'accomplir Seigneur. Oh je prie Père pour que personne ne vienne brûler les étapes et que chacun puisse comprendre ces enseignements Seigneur, pour que ce peuple soit un peuple intelligent, qu'il ait de l'intelligence divine, qu'il marche selon ce que tu révèles Seigneur, et qu'à la fin de chaque vie ici Seigneur, chacun puisse dire j'ai couru ma bonne course, ma course, et j'ai vraiment fait ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai vu Dieu me dire il y a tant d'années et je l'ai vu se réaliser, et maintenant c'est mon temps d'aller à la maison auprès de mon Père. Seigneur, que vraiment dans les cœurs cette pensée de l'éternité soit là, et que nous puissions y entrer Seigneur, pour que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus nous prions, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.